Aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir.
Cameroun, l'ancien ministre de la Défense, Edgar Alain Mbengo, ex-figure du régime du président Paul Biya, a été arrêté pour de supposées malversations financières.
Soudan, l'état d'urgence imposé par le président Omar el-Béchir restreint les libertés publiques. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Justice devant les députés de ce pays secoué par des manifestations anti-gouvernementales.
Les Nations Unies mettent en garde contre la menace que représentent les inégalités de revenus grandissantes dans le monde.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
Dans l'actualité africaine au Cameroun, Edgar Alain Mbengo, qui a été entre autres ministre de la Défense, est en garde à vue. La justice enquête sur sa gestion des fonds alloués à l'équipement de l'armée entre 2009 et 2015. Le point Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Juntap.
Ce mercredi a été une nouvelle journée d'ennui judiciaire pour l'ancien ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense, Edgar Alain Mbengo. Son domicile a fait l'objet d'une nouvelle perquisition après celle du 5 février dernier en sa présence à Privéo Afrique. Les enquêteurs du corps spécialisé d'officiers de police judiciaire ont également mené la même opération dans les locaux d'une société appartenant à l'épouse de l'ex-ministre de la Défense. Mardi, après une longue journée d'audition, Edgar Alain Mbengo a passé une première nuit dans les cellules du tribunal criminel spécial à Yaoundé. Selon le parquet général du TCS, M. Mbengo et trois autres personnes parmi lesquelles un officier supérieur de l'armée, le directeur général adjoint d'une banque, sont gardés à vue en rapport avec, citation, la situation de la société Macforce Cameroun, fin de citation. En effet, des soupçons de détournement de fonds publics pèsent sur ces quatre personnes gardées à vue lors de l'achat des équipements de l'armée camerounaise par l'entremise de la société Macforce Cameroun. Depuis le 31 janvier dernier, Edgar Alain Mbengo, qui a été directeur du cabinet civil de Paul Biya, patron de la police et de la défense, est interdit de sortir du territoire de source judiciaire à défaut de passer une nouvelle nuit dans les cellules du tribunal criminel spécial. L'ex-ministre de la défense pourrait être soit libéré ou placé ce mercredi en détention provisoire en prison. Yaoundé, Emmanuel Julunta, VOA Afrique.
En RDC, l'opposant et candidat malheureux à la présidentielle, Martin Fayoulou, a annoncé qu'il renonçait à son mandat de député. « J'ai été élu président de la République », a-t-il déclaré. « Je ne peux pas me rabattre comme député ». Fin de citation. Félix Tshisekedi a remporté les élections avec 38% des voix contre 34% pour Martin Fayoulou.
Et en République du Congo voisine, la justice a requis 20 ans de prison contre André Okombi Salissa. L'opposant comparaît depuis janvier pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État devant la cour criminelle de Brazzaville.
À moins de 4 mois de la présidentielle mauritanienne, le gouvernement a annoncé la dissolution des 3/4 des partis. Il existe une centaine de formations politiques dans le pays. Toutes celles qui ont obtenu moins de 1% des suffrages exprimés aux élections de 2013 et de 2018 sont dissoutes selon un arrêté du ministère de l'Intérieur.
Au Maroc, des centaines de journalistes, militants et syndicalistes ont manifesté devant le tribunal de Rabat en soutien à 4 journalistes jugés pour avoir publié des informations considérées comme confidentielles.
L'état d'urgence imposé au Soudan par le président Omar el-Béchir affecte les libertés publiques, a reconnu mercredi le ministre soudanais de la Justice Mohamed Ahmed Salem devant les députés de ce pays secoué depuis mi-décembre par des manifestations anti-gouvernementales. Ekia Badou.
Imposer l'état d'urgence a un impact négatif parce que cela restreint les libertés publiques, a affirmé le ministre soudanais de la Justice, Mohamed Ahmed Salem, au Parlement en présentant cette mesure présidentielle qui fera l'objet d'un vote des députés le 11 mars. Nous espérons que les raisons pour lesquelles l'état d'urgence a été imposé disparaîtront bientôt, a-t-il ajouté. Depuis le 22 février, M. Béchir a décrété l'état d'urgence pour un an à travers tout le pays, après avoir d'abord mené une répression qui n'est pas parvenue à contenir le mouvement de contestation contre son régime. Dominé par le Congrès national, le parti du président Béchir, le Parlement devrait approuver l'état d'urgence. Depuis sa mise en place, les rassemblements sont devenus plus rares. Plusieurs centaines de manifestants ont toutefois été arrêtés jeudi dernier dans la capitale et à Oudourman, sa ville voisine, et traduits devant des tribunaux d'exception. Selon un bilan officiel, 31 personnes sont mortes depuis le début des manifestations en décembre dernier après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Human Rights Watch évoque le chiffre de 51 morts.
Le Kenya et la Somalie ont convenu d'œuvrer en faveur de la paix afin de mettre un terme aux différends frontaliers dans une zone maritime de l'océan Indien. Les présidents kényan et somalien se sont rencontrés à Nairobi sous la médiation du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Mogadiscio avait récemment mis aux enchères des gisements pétrolifères et gaziers dans cette zone.
Grève surprise à l'aéroport international de Nairobi, au Kenya. Une grève qui a bloqué des centaines de voyageurs. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les employés grévistes.
En Afrique du Sud, deux fermiers blancs ont été condamnés aujourd'hui à des peines de 23 et 18 ans de prison pour le meurtre d'un adolescent noir qu'ils soupçonnaient d'avoir volé des tournesols. Ce drame avait provoqué des émeutes dans la région reculée du Nord-Ouest.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, des signes d'activité ont été détectés sur un site nord-coréen de lancement de fusées, ce qui laisse penser que Pyongyang a entamé la rapide reconstruction de cette installation après l'échec du sommet de Hanoï. Les précisions de John Linden.
Selon le Centre pour les études stratégiques et internationales basé à Washington, le regain d'activité sur le site nord-coréen de Suae a été détecté sur la base d'images satellites deux jours seulement après ce fiasco diplomatique. Il pourrait illustrer une détermination de Pyongyang face au rejet américain de sa demande d'un allègement des sanctions pesant sur le régime nord-coréen. Un autre site de chercheurs suggère de son côté que les travaux pourraient avoir débuté avant la rencontre entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui s'est conclue jeudi dernier de façon abrupte, sans accord sur l'épineuse question des programmes nucléaires et balistiques de Pyongyang. Le complexe était en sommeil depuis août 2018, ce qui indique que les activités actuelles sont délibérées et ont un but, estiment des experts. Suae, sur la côte nord-ouest de la Corée du Nord, sert officiellement à placer des satellites en orbite, mais les réacteurs peuvent aisément être adaptés aux missiles balistiques. C'est justement de Suae que Pyongyang avait envoyé des satellites en 2012 et 2016. Ces activités détectées inquiètent donc la communauté internationale qui accuse le programme spatial nord-coréen d'être le paravent de ses programmes d'armement.
Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU se dit préoccupé par la situation dans de nombreux pays confrontés ces derniers mois à des manifestations contre les inégalités ou pour une amélioration des conditions socio-économiques. Michel Bachelet a présenté aujourd'hui son rapport annuel devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, compte rendu Jacques Aristide.
Michel Bachelet est inquiète.
Ces derniers mois, nous avons vu des gens du monde entier descendre dans la rue pour protester contre les inégalités et la détérioration des conditions économiques et sociales.
En poste depuis 6 mois, l'ONU, l'ancienne présidente du Chili, indique que les inégalités touchent tous les pays. Et pourtant, dans plusieurs cas, dit-elle, les protestataires sont confrontés à un usage excessif de la force, des détentions arbitraires, de la torture et même de présumés assassinats sommaires ou extrajudiciaires. Madame Bachelet déplore les répressions violentes des manifestations en Haïti, au Zimbabwe et au Soudan. La chef des droits de l'homme de l'ONU rappelle que même dans des États prospères, des gens se sentent exclus des avantages du développement et privés de droits économiques et sociaux. Ainsi, elle réclame des enquêtes approfondies sur toutes les accusations de recours excessif à la force, comme lors des manifestations des Gilets jaunes en France. Pour ce qui est de l'Amérique latine, Madame Bachelet estime que la crise au Venezuela est exacerbée par les sanctions internationales.
En Syrie, quelques 400 combattants du groupe État islamique ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de fuir Baghouz, leur ultime réduit. C'est ce qu'a indiqué un responsable des forces anti-djihadistes à l'AFP. acculé dans moins d'un demi-kilomètre. L'organisation terroriste est la cible d'une offensive des forces démocratiques syriennes.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
L'Union européenne a fait don de 15 millions d'euros au gouvernement burkinabé pour soutenir un plan solaire dénommé Yelen. Ces fonds devront servir à améliorer l'accès à l'énergie et à la croissance économique. Selon Financial Afrique, le projet prévoit l'installation de 100 mini-centrales solaires dans les localités rurales pour 50 000 ménages et le déploiement de 100 000 kits solaires pour 100 000 ménages à l'horizon 2020. Pour lever 80 millions de dollars et booster le secteur privé, l'État angolais vient de décider de privatiser, totalement ou partiellement, cette entreprise publique. Celle-ci ferait partie des 52 unités industrielles installée dans la zone économique spéciale de Luanda-Bengo et devrait être cédée chacune contre un montant situé entre 3 et 18 millions de dollars. La Tribune rapporte que cette opération de privatisation devrait se faire à travers un appel d'offres public qui prendra fin le 31 mars 2019. Pour terminer, 90% du budget 2019 de São Tomé et Príncipe sera financé par l'aide internationale, alors que ses dépenses se chiffrent à 150 millions de dollars. ECOFIN révèle que seulement 10% de ce montant devrait être couvert par les recettes de l'État. 76% du financement nécessaire devrait être des dons des partenaires bilatéraux, alors que 24% devrait venir des organisations internationales. Ces fonds devraient être essentiellement consacrés aux travaux publics, la santé, l'infrastructure, l'éducation, l'agriculture et la pêche.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Suite des huitièmes de finale, retour en Ligue des Champions ce soir.
Oui, dans la première affiche, Manchester United de l'Ivoirien Eric Bailly se déplace à Paris avec beaucoup de handicap, 8 blessés, Paul Pogba suspendu, tandis que le PSG du Camerounais Eric Maxime Choupo-Moting part favori après sa victoire 2-0 à Wembley. Dans l'autre rencontre, le FC Porto de l'Algérien Yacine Brahimi compte sur le retour de blessure de son serial buteur malien Moussa Marega pour renverser la vapeur face à l'AS Rome irrégulière. Une victoire 1-0 suffirait au bonheur des Portugais. Coup d'envoi, 20h temps universel pour les deux rencontres.
Deux mois d'arrêt pour Vinicius.
L'espoir brésilien du Real Madrid sorti, blessé hier lors de l'élimination contre l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, souffre d'une rupture des ligaments de la cheville droite. Selon le site internet du quotidien sportif madrilène AS, le jeune ailier de 18 ans sera indisponible environ deux mois. Vinicius s'est blessé à la demi-heure de jeu au stade Santiago Bernabéu et a été remplacé par Marco Asensio. Cette blessure le privera de sa première convocation en sélection brésilienne pour les matchs amicaux contre le Panama le 23 mars et la République tchèque trois jours plus tard.
Un premier forfait chez les éperviers du Togo.
Oui, il s'agit de Razak Boukari. Le milieu de terrain blessé depuis deux journées en Ligue 2 française doit mettre un terme à sa saison. Il a annoncé lui-même sur le site internet de son club, la Berrichonne de Châteauroux. Boukari ne pourra donc pas être de la partie pour le match crucial des éperviers contre le Bénin le 24 mars en éliminatoire de la CAN 2019.
Encore une plainte pour mauvais arbitrage en Coupe CAF.
Oui, cette dernière vient du Kenya où la Fédération de football a adressé un courrier à l'instance continentale pour demander une enquête sur l'arbitre du match Gor Mahia Usende dimanche dernier. Le Malien Boubou Traoré a refusé un but au Kenya à la 58e minute pour une faute qu'ils estiment inexistante à la suite d'un corner. Hier, suite à la plainte du Raja Casablanca, l'arbitre du match Raza RS Berkane, le Camerounais Antoine Max Depadou Efa Essouma, a été suspendu pour un an par la commission des arbitres de la CAF.
Le comité de normalisation encore prolongé au Mali.
Ainsi en a décidé la FIFA. Fatoumata Guindo et ses collaborateurs ont encore jusqu'au 31 août 2019 pour accomplir leur mission, à savoir réviser les statuts des ligues régionales et ceux de la FEMAFOOT et enfin organiser l'élection des nouveaux comités exécutifs. Le comité de normalisation a déjà obtenu deux prolongations, le 26 avril 2018 et le 26 octobre 2018.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriac et Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous pour la seconde partie du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place au dossier du jour.
En prélude à la journée de la femme, nous vous proposons une petite série de reportages, portraits au Sénégal sur des femmes dites gagnent peu, c'est-à-dire qui gagnent difficilement leur vie, mais qui parviennent à nourrir leur famille grâce à leurs activités. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Della Pouille, une vendeuse de légumes qui fait vivre son mari et ses enfants grâce à son petit commerce. De notre correspondant à Dakar, Sédina Abagueil.
Teint noir, silhouette imposante, Ndéla Pouy est une vendeuse de légumes. Elle exerce cette activité depuis 6 ans. Avec un mari à la retraite et 5 enfants à nourrir, cette dame a fait des sacrifices au profit de sa famille.
Je me suis installée en ville depuis plus de 6 ans. Je vends une variété de légumes. Mes débuts ont été difficiles car la municipalité nous interdisait de vendre des légumes à côté du trottoir. Aujourd'hui, les choses se sont calmées. Je rends grâce à Dieu.
Du haut de ses 40 ans, Ndéla s'approvisionne au marché Castor de Dakar. Elle nous confie que par moment, il est très compliqué pour elle de tirer son épingle du jeu.
Le kilo de choux, je l'achète à 300 et je le revends à 500 francs. Le kilo de carottes, je l'achète à 1000 francs et je le revends à 1200. Idem pour le citron. Pour chaque article, je cherche un bénéfice de 200 francs. Les grandes surfaces nous rendent la vie difficile car ils ont investi notre domaine d'activité. Les gens préfèrent plus s'approvisionner là-bas.
Partie de rien, Ndéla assure plusieurs charges parmi lesquelles la dépense quotidienne de sa maison.
J'ai toujours refusé de tendre la main. Voilà pourquoi je me bats bec et ongles pour subvenir aux besoins de ma famille et épauler mon époux.
Son credo, vivre au jour le jour, vivre le moment présent. Raison pour laquelle elle ne tient pas de comptabilité quotidienne.
C'est très compliqué de faire une comptabilité régulière. J'investis tous les jours 10 000 francs et il m'arrive de finir ma journée avec 6 000 francs. C'est un petit commerce, mais je rêve d'agrandir mon capital et bien sûr mes activités.
Chez Ndéla, la vente de légumes est une histoire de famille et c'est avec fierté qu'elle nous la raconte.
Ma mère était vendeuse de légumes, mes frères aussi. Ils n'avaient pas de complexe à le faire. Aujourd'hui, tous les biens qu'ils ont, c'est grâce à la vente de légumes et c'est une fierté.
Toutes les femmes sont des reines, mais cela ne devrait pas empêcher aux dames de travailler afin de gagner leur vie dignement. C'est cela la conviction de Ndéla Pouy. À Dakar, Sédina Abagueil pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Niger, une maladie bactérienne contagieuse décime des troupeaux d'ânes depuis plus de 6 mois dans presque tout le pays. Il s'agit de la gourme équine ou angine du cheval qui a déjà tué près de 4000 bêtes. Les autorités travaillent à trouver une réponse sanitaire à ce fléau. Plus de détails avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est au mois d'août 2018 que les premiers cas ont été enregistrés à Zinder, à l'est du pays. Le temps de faire les prélèvements et analyser pour confirmation la maladie qui était jusqu'ici méconnue des éleveurs nigériens s'est répandue dans presque toutes les autres régions du pays. Bourema Dodo, secrétaire exécutif de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger.
Nous, en tant qu'association d'éleveurs, nous avons recensé jusqu'à 4000 et quelques têtes d'asine qui sont mortes. Et puis ça continue, quoi. C'est très grave, c'est excessivement grave. Hein. C'est presque un ravage de cette race asine hein, dans certaines régions. C'est vraiment une hécatombe.
La gourme équine ou angine du cheval est une maladie bactérienne très contagieuse, explique le directeur de la santé animale au ministère de l'élevage, Dr Malik.
Le labo a diagnostiqué que c'est la gourme qui est transmise par une bactérie. Donc c'est une maladie bactérienne très contagieuse qui diffuse très rapidement. Et c'est ça qui a expliqué le fait que ça a commencé à Zander et en moins de 1 mois, tout le pays est contaminé. C'est une maladie des équidés. Ce n'est pas une zoonose. Donc un homme ne peut pas contracter la gourme. Donc vraiment, il faut que les gens soient tranquille.
Depuis la confirmation de cette maladie, les autorités en charge des ressources animales ont pris les dispositions pour non seulement endiguer la maladie, mais aussi indemniser les éleveurs victimes. Mohamed Boucha, ministre de l'élevage.
On a pris des ressources au niveau du ministère pour essayer de rapidement de faire des commandes groupées, pour essayer de mettre à la disposition dans toutes les régions les antibiotiques pour essayer de vraiment d'éradiquer cette maladie-là. Ces produits sont gratuits au profit des éleveurs. Donc faire des caravanes de vaccination, les choses commencent à se stabiliser. Nous prenons au sérieux cette situation des éleveurs parce qu'une fois qu'il n'y a pas des ânes, vraiment il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas à brever, ils ne peuvent pas transhumer. Il y a des listes qui sont chaque fois actualisées pour avoir une situation, pour essayer vraiment de répondre. On sait que X a perdu tant d'animaux. Quand on va répondre, on verra en fonction de la perte quelle réponse il faut donner et en fonction aussi de ce que nous aurons.
Environ 2 millions de têtes d'ânes sont répertoriées au Niger par les services du ministère de l'élevage. Récemment, face à un flux massif des exportations d'ânes vers le Nigeria voisin et la Chine notamment, le gouvernement nigérien a formellement interdit l'abattage et l'exportation des ânes. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Bonsoir à tous, ici Eki Abadou et je vous donne rendez-vous à 18h50 temps universel pour votre émission interactive à votre avis. C'est bientôt le 8 mars, la journée internationale de la femme, officialisée par les Nations Unies en 1977 pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Que pensez-vous des femmes obligées d'interrompre ou de retarder leur carrière pour se consacrer à leur famille? Est-ce qu'une autre alternative vous semble possible? Laissez-nous votre numéro de téléphone et vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique ou appelez-nous en direct au 001 202 205 26 33. Je répète, 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur notre site www.voafri.
L'Éthiopienne Yetner Berch Nigusi a perdu la vue à l'âge de 5 ans, mais elle ne s'est pas laissée abattre par son handicap. Défenseuse inlassable des personnes handicapées en Afrique, elle a reçu des prix prestigieux, notamment le prix Spirit of Helen Keller et le prix Nobel Alternatif. Yetner Berch Nigusi s'est récemment entretenue avec Salem Salomon de la VOA dans nos studios de New York. Voici son histoire, le récit est de Salwa Jaafari.
Yetner Berch Nigusi a grandi dans la province rurale de Wolo en Éthiopie, avec très peu de chances de réussir dans la vie. Devenir aveugle, c'était pour beaucoup de gens, y compris ma mère. Mon Dieu, ça va être la fin de sa vie. Elle ne peut pas vivre sans moi.
Mais là où d'autres ont vu des obstacles, elle a vu une opportunité.
Si je n'étais pas devenue aveugle, je me serais mariée tôt, à 10 ou 12 ans. Je considère donc mon affliction comme un facteur émancipateur. Ça m'a amenée là où je suis aujourd'hui.
Alors que d'autres filles s'étaient mariées ou étaient contraintes de travailler à la maison, Nigusi s'est consacrée à son apprentissage. Elle a déménagé à Addis Abeba, où elle a poursuivi des études pour obtenir un diplôme en droit. Elle a ensuite formé le Centre éthiopien pour les personnes handicapées et le développement, un groupe qui défend les droits des personnes handicapées.
C'est ridicule, vous savez, les gens vous demandent « Comment mangez-vous sans voir votre bouche ? Comment pouvez-vous faire ceci ou cela ?» Et ils sont vraiment étonnés lorsque vous faites quelque chose parce que, dans leur tête, ils croient que quand on a un handicap, on en a plein d'autres.
L'organisme de Nigusi, The Ethiopian Center, cherche à éliminer ces obstacles par le biais de formations et de publications. Elle propose un guide en ligne des hôtels, restaurants et bureaux accessibles aux personnes handicapées.
Donc cela dépend de la façon dont vous voyez une personne en fauteuil roulant. Par exemple, si vous voyez une personne en fauteuil et vous vous dites « Oh, c'est parce qu'ils sont sur une chaise roulante, ils ne peuvent pas être médecins ». Peu importe, cela n'a aucune relation. Cela n'a rien à voir.
Elle aimerait également que la société change son regard vis-à-vis des personnes handicapées, qu'elle arrête de les considérer comme un fardeau, mais plutôt comme un atout.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants doit voter en principe demain une résolution condamnant l'antisémitisme. La décision prise par les démocrates qui contrôlent la Chambre fait suite aux nouveaux propos polémiques de la représentante Ilhan Omar, elle-même démocrate. Elle a dénoncé la semaine dernière ce qu'elle appelle l'allégeance à un pays étranger de certains lobbyistes et responsables politiques en référence à Israël. Si elle s'est excusée sur un tweet jugé antisémite le 11 février, Ilhan Omar s'est défendue cette fois et n'a toujours pas retiré ses propos. Pour analyse, Abdourahman Dia joint ici à Washington, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Pour la première fois, il y a des jeunes musulmans qui sont entrés au Congrès et ils ont commencé à critiquer Israël et les Américains qui soutiennent Israël. Mais ils sont allés trop loin parce qu'ils ont accusé les Américains qui soutiennent Israël d'avoir double loyauté, c'est-à-dire vous soutenez Israël, donc vous n'êtes pas Américain. Vous ne pouvez pas être Américain et pro-Israël en même temps. Il y a des gens qui disent que c'est l'antisémitisme, ça.
Oui, la représentante Ilhan Omar a parlé d'allégeance à Israël.
C'est ça, mais c'est pas du tout le cas. Il y a, par exemple, il y a des juifs américains qui soutiennent Israël, bien sûr, mais le plus grand appui pour Israël vient des chrétiens évangéliques aux États-Unis. Les gens dans le sud des États-Unis, les évangélistes, c'est le plus féroce soutien pour Israël, beaucoup plus que les juifs.
Quelle est un peu la position des démocrates? J'imagine que c'est une position un peu difficile parce qu'on les accuse en même temps de ne pas favoriser la liberté d'expression, mais Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre, veut montrer que l'antisémitisme n'est pas acceptable. C'est une situation un peu difficile, n'est-ce pas, pour les démocrates?
Oh oui, la dame est nouvelle, elle apprend, donc je crois qu'il ne faut pas l'exclure de la commission des affaires étrangères. Il faut seulement l'engueuler un petit peu que ce qu'elle dit n'est pas acceptable, mais il ne faut pas l'exclure. Et elle va apprendre, elle est jeune.
Une représentante comme Ocasio-Cortez, la jeune représentante aussi de New York, estime que ses propos, ils auraient été tenus par quelqu'un d'autre, peut-être n'auraient pas eu autant d'impact. C'est votre avis ou...
Non, je crois que ce qu'elle a dit, c'est ça qui compte. Le fait qu'elle est musulmane ne change pas grand-chose, à mon avis.
C'est une brèche, peut-être, pour les républicains d'attaquer les démocrates.
Oui, ils vont essayer, mais je crois que c'est pas un sujet aussi important, par exemple, que le déficit budgétaire, les impôts et les questions de immigration. Ce sont des sujets beaucoup plus importants que ça. Ce sera un sujet pour une semaine et ça va disparaître.
C'était Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Lionel Gaïma. À la console, Cornelius Ténor. Au micro, Claire Moragibour et Morgane Guiriec.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, et notre page Facebook, bien sûr. Restez avec nous. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité, présenté par Henri Francisque, suivi d'À votre avis, votre émission interactive avec Ekia Badou.
VOA Afrique. Les